Les nuits de France Culture. L'Académie française, c'est un must. Il n'y a rien au-dessus, c'est le sommet de la pyramide. Bien sûr, la route est longue et la pente est raide qui mène à l'Olympe, où trônent les 39 élus qui vous attendent pour faire le 40e, mais une fois en haut, on n'en bouge plus, c'est fait. Et devenu immortel, on sait que l'on n'en sortira plus que les pieds devant. Moquons-nous, moquons-nous. Certes, l'habit vert brodé, le bicorne emplumé, l'épée et le dictionnaire qui n'en finit plus. Et toutes ces têtes chenues, masculines pour la plupart, dont on se demande à quoi elles s'occupent. Alors bien sûr, tout cela n'a rien de très yéyé, mais est-ce une raison suffisante pour regarder avec un sourire en coin cette institution, comme le font beaucoup d'entre nous? Peut-être pas, et l'émission qui va suivre pourrait convaincre les plus moqueurs et les sceptiques que l'Académie n'est pas ce qu'ils croient ou ce qu'ils croient en savoir, c'est-à-dire pas grand-chose en général. En 1987, en tirant le portrait de l'Auguste Coupole, Christine Goémé nous invitait à dépasser ses apparences et à en découvrir un peu plus sur son histoire, son fonctionnement et les fils qui tiennent entre eux des académiciens au parcours si différents les uns des autres. Elle le faisait en compagnie de Bertrand Poirot-Delpech, reçu à l'Académie en janvier de cette année-là, et de l'archiviste François Fossier, auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « Au pays des immortels, l'Institut de France, hier et aujourd'hui ». Grand angle, portrait de l'Académie française, par Christine Goémé, une émission diffusée le 31 octobre 1987 sur France Culture.
Étant gamin, quelquefois j'imitais des discours de l'Académie, du genre « Monsieur, vous naquîtes en 1902 », etc. Alors, je jouais à ça, et tout d'un coup, à force d'y jouer, ben, ça finit par vous arriver.
Avec cette soif qu'ont les enfants pour les connaissances hiérarchisées et l'escalade des concepts, le garçonnet assiégeait sa grand-mère de questions. « Et après le lycée, qu'est-ce qu'il y a ?»«
Il y a la faculté. »«
Et après, et après ?»«
Après ?» On devient professeur. Puis, si on est très bon professeur, on entre à la Sorbonne, au Collège de France. Et puis, on fait partie de l'Académie française. Et après, il n'y a rien.
L'enfant et la grand-mère se turent. L'un visiblement impressionné par la découverte du néant après une aussi fabuleuse ascension, l'autre, pas très sûr que ce raccourci de carrière correspondit exactement à la réalité, et embarrassé à l'idée qu'on puisse lui demander des détails sur cette académie dont elle ne savait qu'une chose, c'est qu'on ne faisait pas mieux. François Fossier.
Portrait de l'Académie française. Une émission de Christine Goémé, mise en onde par Daniel Fontanarosa. Quand on emploie le terme « académique » dans le langage courant, c'est toujours de façon péjorative. On dit par exemple d'une pratique qu'elle est académique lorsqu'elle est particulièrement figée et conventionnelle. L'Académie française, reine des académies, est-elle la gardienne rigide des conventions? Est-elle la parfaite gestionnaire de la langue? Si oui, pourquoi, malgré ses 350 ans passés, la vieille dame du quai Conti reste-t-elle un objet de désir fascinant pour tant d'hommes éclairés et pour tant d'esprits libres? Un des secrets de sa jeunesse éternelle vient du fait qu'elle intègre, avec élégance, il faut bien l'avouer, un certain nombre de critiques, d'autant plus assimilables qu'elles sont faites avec humour. Voici, par exemple, pour commencer à tracer ce portrait de l'Académie française, un court extrait de l'habit vert de l'académicien Robert de Flers.
Eh bien, Pinchet, quoi de nouveau à l'Académie? Hélas, rien, monsieur le duc. Les 5 candidats que vous connaissez déjà, les habitués, restent seuls en ligne pour le fauteuil de monsieur Jarlet-Brézin.
Et aucun de ceux-là, messieurs, je vous le rappelle, ne serait agréé au parti bien pensant, à notre parti, qu'il est pourtant indispensable de renforcer. Évidemment, mes chers amis, cette situation est, ne nous y trompons pas, très sérieuse.
Elle est plus que cela, messieurs. Elle est grave.
Comme vous dites cela.
Expliquez-vous. Messieurs, puisque vous me faites l'honneur de m'interroger... Mais non, je n'ose pas.
Dites.
Permettez-moi donc de vous le dire, messieurs, depuis quelque temps, je ne suis pas content de l'Académie.
Mais pourquoi donc?
Savez-vous, monsieur, ce que vous réserve monsieur Poudrier, professeur d'histoire religieuse au Collège de France? Monsieur Poudrier qui occupe le fauteuil de monsieur De Vielle-Castel.
Mais dites.
Il va avoir un enfant.
Eh bien?
Eh bien, c'est un désastre. Autrefois, messieurs, quand on était entré à l'Académie, on n'avait plus d'enfants. On ne s'amusait pas à des niaiseries pareilles.
En effet, c'est indécent.
Moi, je trouve ça plutôt gentil.
Autre symptôme, celui-ci tout à fait confidentiel. Un de ces messieurs, un élu déjà ancien, a surpris récemment sa femme en flagrant délit.
Tiens.
Et ce qu'il y a d'abominable, c'est qu'il l'a surprise un lundi. Oui, messieurs. Un lundi.
Eh bien.
Eh bien, messieurs, voilà encore un fait nouveau, un fait unique. Depuis 3 siècles, lorsqu'il arrivait qu'un membre de l'Académie française fut trompé par sa femme, il ne l'était que le jeudi, de même que les membres de l'Académie des sciences ne l'étaient que le samedi, enfin le jour de la séance. Et tout de même, il faut le reconnaître, cette régularité dans la faute gardait je ne sais quoi d'assez respectable. Enfin, c'était une tradition.
Elle s'en va. Triste époque.
Mais enfin, pas un chèque, quel est pour vous le candidat idéal?
Le candidat idéal, messieurs, c'est celui qui n'a rien fait. Qui n'a pas cédé à cette manie d'écrire. Cette manie qui perd tant d'hommes remarquables. C'est celui que personne ne connaît et qui, en entrant à l'Académie, lui doit tout. Car sans elle, il ne serait rien. Ça, c'est beau. Ça a de la grandeur.
Monsieur, voilà qui est parlé.
Messieurs, j'ai rempli mon modeste devoir, à vous d'aviser. Je vous demande la permission de prendre congé.
À jeudi, Pinchet. D'ici là, nous chercherons. Merci.
Messieurs.
François Fossier.
Je ne crois pas que le portrait de Robert de Flair soit véritablement un portrait sur lequel on puisse se fonder et en qui on puisse avoir entière confiance. Il faut tenir compte essentiellement du fait que c'est une pièce de théâtre, une pièce de boulevard, et que le premier but recherché par l'auteur est de faire rire son public. Les personnages qui sont mis en scène sont grotesques, il n'y a pas d'autre mot. Ils agissent d'une manière assez hétéroclite et à mon avis peu en rapport avec ce qu'est la réalité du monde académique et de la vie réelle que peut mener un académicien. Certains traits sont justes, et Robert de Flers d'ailleurs était bien placé pour le savoir, puisque finalement il est entré lui aussi Absolument. À l'Académie française, et apparemment il n'y en a pas trop voulu. Ce n'est pas parce qu'on écrit d'une manière un peu critique contre l'Académie que nécessairement l'Académie vous en veut à mort.
Oui, il y a même d'ailleurs une tradition des gens comme Montesquieu,
oui, l'impertinence, ont écrit
contre l'Académie et sont rentrés à l'Académie.
Oui. Inversement, je pourrais dire que certaines personnes, je pense notamment à Alphonse Daudet qui a longtemps cherché à entrer à l'Académie, et après lui, ses enfants, et qui ont d'ailleurs échoué également. Il y a certains cas où un petit coup de patte à l'Académie peut coûter très cher et pendant très longtemps. Je crois qu'en fait, la question se résume à la chose suivante. Si l'attaque est forte, trop forte, d'une agressivité outrancière, l'Académie s'en fiche parce qu'elle est assez intelligente pour se rendre compte que finalement c'est excessif et que ça tourne à la caricature. En revanche, toute analyse qui, en quelque sorte, serait mitigée, tâcherait de faire la part des choses, créerait surtout une espèce de sélection, de ségrégation à l'intérieur du corps académique. Tout cela est beaucoup plus périlleux comme exercice pour l'auteur qui le pratique. Et l'académie, il ne faut pas l'oublier, se veut un corps homogène de 40 personnes qui, en quelque sorte, sont indissociables et dont le point commun est un point essentiel dans le sens originel du terme, c'est-à-dire qu'ils répondent à une même essence. Cette essence, c'est l'immortalité. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des premières choses que vous dit un académicien quand il vous reçoit pour que vous défendiez votre dossier, en quelque sorte, avant votre élection. La première chose qu'il vous dit, c'est qu'une fois que vous serez rentré à l'académie, vous faites partie des 40 et en quelque sorte, votre passé est aboli. Vous rentrez dans une espèce d'empiré qui ne connaît ni début ni fin, ni hiérarchie interne, et le jeu est de considérer que vous êtes l'égal de vos 39 autres confrères. L'académie est véritablement up-to-date. Il n'y a vraiment pas une année de retard entre la manière dont elle continue à élire les gens, enfin ses nouveaux confrères, et le mouvement de la société actuelle. C'est vraiment l'institution en France, je peux dire l'institution publique, la plus proche de la réalité sociale contemporaine. De ce point de vue-là, d'ailleurs, à mon avis, c'est essentiellement la raison pour laquelle elle perdure depuis des siècles, mais le prestige de l'Académie française tient moins à l'ancienneté de son passé, moins aux brillantes élections auxquelles elle a procédé et à la gloire dont certains de ses membres sont revêtus, qu'au fait qu'elle reflète depuis des décennies et des siècles, au moment précis, la société dans laquelle elle vit.
Pour accéder à l'immortalité, il faut être élu. Pour être élu, mieux vaut rencontrer ceux qui peuvent, éventuellement, vous apporter leur voix. Ces visites sont strictement interdites par le règlement, mais absolument recommandées par les usages. Voici ce que racontait à ce sujet l'académicien Maurice Genevoix en 1965.
Il arrive qu'on meure à l'Académie française. Il arrive que cela ouvre des successions. Chaque succession, une campagne ou des campagnes. Et alors, je me rappelle que quand il y a longtemps, je faisais mes visites de candidature quand j'étais de l'autre côté, en somme. Eh bien, j'avais affaire, on se fait tous des illusions. Quand nous recevons, par exemple, des visites de candidats, on a l'impression quelquefois que ces hommes plus jeunes que nous, en général, se sont dit avant de pousser la porte... Qu'est-ce que je vais m'envoyer comme coup de barbe, n'est-ce pas? C'est pas très drôle, je vais voir un vieux monsieur, ça va pas être rigolo. Et puis, presque tous, je le dis à notre honneur et à celui de mes confrères, presque tous ont une petite surprise. Et ils disent, tiens, mais il est pas si casse-pied que ça, mais il est pas mal du tout. Et c'est une illusion que j'ai eue, vous voyez, c'est le moment d'une confession. J'avais donc affaire à des messieurs, beaucoup plus vieux que moi en moyenne, bien sûr, très plein d'urbanité, extrêmement gentil dans l'accueil, et qui me disait, par exemple, excusez-moi, je ne fais pas de fausse modestie, mais il me disait, vous avez une bonne culture, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, gros prestige auprès de ces messieurs. Vous avez aussi un beau passé d'ancien combattant, vous avez vraiment défendu votre pays, c'est très bien tout ça. Et puis, ceux qui me connaissaient disaient, vous êtes bien élevé. Ceux qui ne me connaissaient pas me disaient « Vous semblez bien élevé ». Et ils énuméraient comme ça toutes sortes de titres, au point que j'en finissais par dire, avec tout de même une certaine hésitation, mais je crois qu'à ce moment-là, c'était à peu près le cas, je crois que j'ai aussi publié, mettons, 30 ou 35 volumes, et j'ajoutais « Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire ». Et ils me disaient « Mais pas du tout, pas du tout ».
Bertrand Poirot Delpech a été reçu sous la coupole en janvier 1987.
J'ai l'impression d'être déjà un vieil académicien. Songez que ce mois-ci, ce trimestre-ci exactement, je suis chancelier, car il y a un bureau. Tous les trois mois, on élit un bureau et je me trouve déjà sur le perchoir, enfin, l'espèce de petit tribunal qui surplombe la salle de séance. Je me sens un vieux déjà, un vieux de la maison. Mais enfin, les émotions, elles ont beaucoup été décrites. Les émotions de la réception elle-même, le roulement de tambour qui est celui de l'échafaud, comme vous savez,
oui.
C'est la même battement de tambour. Et puis on descend cet escalier qui a été descendu par des gens vraiment tout à fait illustres, glorieux. C'est un endroit où ont défilé quand même les plus grands esprits depuis trois siècles. Alors c'est toujours impressionnant de se trouver dans ce cénacle, dans ce club. Et dans cette institution vénérable, parce qu'encore une fois, on dit souvent qu'elle est passée à côté de bien des génies, mais si on fait le compte de ce qu'elle a reconnu...
Alors, votre discours de réception, vous avez dû faire l'éloge de votre prédécesseur.
Oui, mon prédécesseur, Jacques de La Cretelle, un excellent auteur qui a écrit un livre très très célèbre qui s'appelait « Le retour de Silbermann ». Et dès le lendemain de la guerre de 14-18... Eh bien, c'était quelque chose comme « Touche pas à mon pote ». C'était déjà une façon d'alerter sur l'antisémitisme du moment.
Mm-hmm.
Et c'est donc un livre assez étonnant pour l'époque, parce qu'on était encore en pleine suite de l'affaire Dreyfus. Et dans les lettres françaises, l'antisémitisme débordait plutôt. Ce qui m'a permis de doser la gravité et la légèreté, car c'est la loi du genre, c'est qu'un discours doit être à la fois... grave, presque assez solennel, puisqu'on fait l'éloge du disparu, et en même temps, on doit y glisser quelques sourires, parce qu'après tout, c'est une fête d'arriver dans cet endroit. C'est surtout celui qui vous reçoit, d'ailleurs, qui fait les plaisanteries, parce que vous vous êtes intimidé, vous avez à faire un éloge funèbre, donc y a pas, ça ne prête pas à rire, alors que la personne qui vous reçoit vous taquine.
Qui vous a reçu ?
C'est Alain Decaux. Le discours de réception s'appelle très exactement un remerciement. Donc le premier paragraphe de tradition, l'entrée du discours, l'introduction, est un remerciement à l'Académie de nous avoir élus. Et alors moi j'ai remercié, mais j'y ai glissé, non pas, pas une plaisanterie, mais j'y ai glissé un souvenir de lecture, c'est que je me suis souvenu que Flaubert, lorsqu'il avait reçu la Légion d'honneur et que ses amis se moquaient de lui, il a dit « la recherche des honneurs » m'a toujours paru le comble de la modestie. Alors j'ai commencé mon article, vous voyez, à des formations, mon remerciement comme ça, en disant, au fond, c'est la modestie qui vous a amené là, et c'est la modestie qui m'amène à vous, parce que si on était vraiment très orgueilleux, on ne supporterait pas d'autre jugement que celui de la multitude et des siècles à venir, et là, on accepte d'être jugé par des pairs. Eh bien, je trouve que nous sommes tous des modèles de modestie. Et comme il y avait là donc toute une brochette d'académiciens avec leurs décorations et leurs costumes, les traiter de modestes et me traiter moi-même de modeste, c'était une façon de se moquer de ce qui reste malgré tout un endroit de fierté. On est content d'y entrer et si on était tout à fait modeste, peut-être n'aurait-on pas la témérité de se présenter.
Les académiciens sont recrutés tous... à peu près dans le même milieu.
François Fossier.
Dans la mesure où l'Académie se veut, encore une fois, l'illustration de ce qu'il y a de mieux dans la France. Vous reconnaîtrez d'ailleurs à ce point de vue qu'elle est étrangement servie, bien servie et aidée par la manière dont nos contemporains voient la société actuellement. On vit dans une société du must et l'Académie est le must des must. De ce point de vue-là, il n'y a pas de meilleure publicité qu'on puisse faire à l'Académie et son pouvoir est encore bien plus considérable peut-être qu'il ne l'était auparavant. Il est certain qu'il faut appartenir à un milieu social qui se définit à la fois par une assez grande aisance financière assez ancienne, une parenté d'éducation aussi, un certain nombre d'études qui ont été menées dans les mêmes conditions, des alliances familiales qui vous font entrer de plein pied très vite avec d'autres académiciens qui deviendront vos confrères, des types de carrières aussi qui se font d'une manière similaire. Alors, il y a un moment où de divergence, c'est-à-dire que vers la trentaine, les activités du futur académicien peuvent se dissocier complètement de celles de ses autres futurs confrères. L'un se lance dans la banque, l'autre dans le fonctionnariat de haut niveau, le troisième dans l'activité purement littéraire ou journalistique. Mais au bout du compte, la vie est la plus forte et ils finissent par se retrouver dans les environs de la cinquantaine. Et c'est cette espèce de convivialité sélective et un peu élitiste qui est à l'origine de bien des élections. Le public qui voit les choses de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, a souvent tendance à se demander pourquoi M. Untel vient d'être élu. Ces gens font partie du même milieu et s'auto-recrutent. Je ne peux pas dire que le talent ne rentre pas en ligne de compte sur ce chapitre. Il est évident qu'on considère quand même aussi les qualités littéraires du candidat. Il n'y a plus de cas aussi scandaleux qu'il y avait pu en avoir sous l'Ancien Régime et même encore jusqu'au début de ce siècle, d'élus qui n'avaient rien écrit et qui se sont bien gardés par la suite encore d'écrire quoi que ce soit. Mais c'est essentiellement une parenté, une cohésion sociale qui est à l'origine des élections. Ça, c'est, à mon avis, indiscutable. J'ai envie de vous lire un passage d'un de ces dîners où le monde académique se trouve mêlé au monde de la société parisienne. Peinture que Daudet en fait dans son Immortel, qui me paraît très juste et finalement peu démodée. Ce soir, dîner de gala, puis réception intime à l'hôtel Padovani. Le grand-duc Léopold reçoit à la table de sa parfaite amie, comme il appelle la duchesse, quelques membres triés des différentes sections de l'Institut, et rend ainsi aux cinq académies la politesse de leur accueil, leur coup d'encensoir de leur directeur. Comme toujours chez l'ancienne ambassadrice, le monde diplomatique est avantageusement représenté, mais l'Institut prime tout. Et la place même des convives précise l'intention du dîner. Le grand-duc, assis en face de la maîtresse de maison, a Madame Astier à sa droite, à sa gauche la comtesse de Fodder, femme du premier secrétaire de l'ambassade finlandaise, faisant fonction d'ambassadeur. La droite de la duchesse est occupée par Léonard Astier. Léonard Astier, entre parenthèses, est un académicien. La gauche par Monseigneur Adriani, nonce du pape. Puis suivent et s'alternent le baron Huchenard pour les inscriptions et belles-lettres, Mouret Bey, ambassadeur de Turquie, le chimiste Delpech de l'Académie des sciences, le ministre de Belgique, le musicien Landry de l'Académie des beaux-arts, d'Anjou l'auteur dramatique, un des cabotins de Picheral, enfin le prince d'Athis qui, par son double titre de ministre plénipotentiaire et de membre de l'Académie des sciences morales et politiques, donne bien la note à deux teintes du salon. L'académicien a le pas sur chacun et j'ai assisté à des dîners où j'ai vu des académiciens pâlir parce que la maîtresse de maison, à la suite d'une erreur d'aiguillage, si je puis dire, ou bien parce que pour des commodités diverses ou le rapprochement qu'elle souhaitait entre telle et telle personne, avait oublié ou s'était arrangé pour que l'académicien ou l'un des académiciens qu'elle avait invité ne se trouve pas à la place qu'il lui estimait due. J'en ai même vu partir parce qu'il ne se considérait pas comme placé. C'est vraiment un des domaines sur lesquels ils sont le plus chatouilleux. On peut le comprendre d'ailleurs puisque c'est quand même le seul corps et on ne retrouve aucun cas similaire dans un pays étranger, le seul corps public qui est le pas sur tous les autres.
Il y a une façon classique de connaître l'histoire des origines de l'Institut de France. J'en ai découvert une autre, bien plus drôle, dans les archives de la radio. Voici comment, en 1965, au cours d'un entretien avec Francine Lelier, l'académicien Marcel Achard racontait la création de l'Académie française.
En 1632, le cardinal de Richelieu s'embêtait. Il avait bien massacré quelques protestants, décapité quelques grands seigneurs, mais au fond, ça l'avait pas tellement amusé. Il avait dû faire appel à la raison d'État pour ne pas sombrer dans la mélancolie. Un de ses familiers, l'abbé de Boisrobert, lui rapporta qu'il avait assisté à une séance où quelques hommes de lettres discutaient joyeusement de problèmes littéraires ou artistiques.
Et c'est ce mot, joyeusement,
qui l'a frappé. Et il a voulu partager leurs amusements et faire de ces distractions une institution d'État. Quand le cardinal de Richelieu leur demanda s'ils ne voulaient pas faire encore, et je crois que le texte exact, c'est s'assembler régulièrement sous une autorité publique, les hommes de lettres de l'époque, moins serviles que leurs confrères d'aujourd'hui ne le sont à l'argent, furent d'abord réfractaires. Mais 3 ans après, en 1635, ils finirent par accepter. Qu'est-ce que voulait la résistance humaine à des limites. Et subitement, dans cette société de Louis XIII, où ils n'avaient jusqu'ici occupé qu'une place secondaire, ils furent soulevés très haut. Et au fond, cette surélévation des hommes de lettres, devenus en un instant les égaux des nobles, des seigneurs de l'Église et des hommes d'épée, eh ben, c'était la grande nouveauté, le grand triomphe de l'Académie. Pensez donc, du jour au lendemain, le célèbre ministre Colbert rappelait à des académiciens qu'il appelait Monseigneur, que désormais, pour eux, ses confrères, ils ne seraient que monsieur. Nous avons eu de la chance que le cardinal de Richelieu, en écrivant de mauvaises tragédies, se soit aperçu du mérite qu'il y avait en écrire de bonnes. Dans ses 40 membres, l'Académie se choisit à époque régulière, un directeur et un chancelier. C'est dire que le directeur et sa sévérité dépend de l'homme qui est directeur. Et on est chacun à son tour de bête. Et pendant 3 mois, le directeur exerce vraiment une autorité immense à l'Académie. Il est assisté d'un chancelier nommé pour 3 mois lui aussi, et qui est exactement dans le domaine littéraire, ce que la Chambre des députés est actuellement dans le domaine politique, c'est-à-dire il fait ce que nous appelons au théâtre de la figuration intelligente.
Depuis sa création jusqu'à nos jours, il est évident que l'Académie française a traversé bien des tourmentes, sans jamais toutefois, hormis une interruption de 20 ans pendant la Révolution française, que son existence fut mise en danger. Les problèmes cruciaux qui déchirèrent la société pendant certaines périodes de l'histoire ne lui furent cependant jamais étrangers. Après la dernière guerre, par exemple, un très petit nombre d'académiciens furent exclus de l'Académie, comme Maurras et comme le maréchal Pétain. En effet, le 22 janvier 1931, Paul Valéry accueillait à l'Académie française Philippe Pétain, maréchal de France, qui entrait dans l'histoire comme vainqueur de Verdun. 22 ans plus tard, exactement jour pour jour, André-François Poncet, ambassadeur de France, succédant sous la coupole à l'ex-chef du gouvernement de Vichy, fait face à la tâche très délicate et périlleuse de prononcer l'éloge de son prédécesseur.
Quel que soit le jugement de l'esprit, quel cœur bien né ne serait pas saisi d'émotion devant les contrastes d'un tel destin. Quoi ? Dans ce petit cimetière marin, cette tombe toute nue est bien celle du grand chef qui, monté sur un cheval blanc, passait il y a 33 ans sous l'Arc de Triomphe à la tête des armées françaises victorieuses. Le caprice des dieux n'avait-il donc comblé cet homme de ses faveurs ? Ne l'avait-il élevé au sommet de la popularité et de la gloire que pour le précipiter de plus haut ? Ne l'avait-il fait si robuste que pour lui infliger dans sa prison une plus longue épreuve ? Comme on comprend les larmes de Solon ? Et comme on voudrait qu'à l'issue de cette tragédie, semblable à celle que les Grecs mettaient sur leur théâtre et qui nous touche du même religieux frisson, les Euménides prissent la place des Érinnées. J'aurais été dans mon discours bien maladroit. Si vous n'aviez saisi, messieurs, qu'il devait, rejoignant son début, aboutir à l'ardente expression de ce vœu. Beaucoup de Français et la majorité de l'opinion étrangère restent troublés par la sentence qui a frappé le maréchal.
Retrouvons Bertrand Poirot Delpech.
Vous avez été donc reçu sous la coupole un jeudi, parce que c'est toujours un jeudi, non ?
Toujours le jeudi, c'est depuis, toujours un depuis jeudi, très longtemps, vous savez, oui, oui, en effet.
Et le jeudi suivant, vous avez donc assisté à votre première séance
c'est plus
du dictionnaire.
Compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on est reçu, on appelle ça dans le jargon de la maison, on appelle ça la communion privée, la communion solennelle. C'est-à-dire qu'on est reçu en privé, généralement 8 jours avant. On lit en petit comité, à un comité choisi, élu, le discours qui est soumis donc. Alors il y a un tour de table, on fait des remarques, on m'a fait des remarques. Les gens qui ont connu la Cretelle m'ont dit « Ah ça c'est bien d'avoir dit ça, est-ce que vous pourriez peut-être dire ça ?» Et on corrige ou on ne corrige pas, mais ça permet... Oui, il y a une lecture privée. Et après cette lecture privée, il y a l'intronisation privée également, c'est-à-dire qu'on est reçu dans la salle de séance qui n'est pas la coupole que tout le monde connaît, mais une salle qui est en retrait dans une cour intérieure de l'Institut.
Une bibliothèque
qui est une salle de séance avec des tables disposées dans un ordre assez curieux, avec des micros, une tribune où siège justement le bureau du trimestre, et où chacun a sa place. Mais c'est une salle de séance et non pas la coupole. Nous avons des tables, nous pouvons travailler au dictionnaire notamment. Et là, nous avons notre place attitrée. Nous ne la quitterons pas de tout notre séjour sur cette terre, j'allais dire, puisqu'on y est à vie. Et alors, le jour de où on a lu son discours en comité privé, on est reçu, les deux parrains viennent vous chercher à la porte de cette salle de séance.
Qui étaient vos parrains ?
Les parrains étaient Henri Troyat et Henri Gouillet. Henri Gouillet qui était mon prof de philosophie et mon voisin de critique dramatique. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Henri Troyat parce que c'est un romancier que j'aime bien, qu'il est devenu maintenant doyen de cette maison. Alors je voulais placé sous l'invocation du théâtre, de la philosophie et du roman. Donc, ils sont venus me chercher à la porte et tous les académiciens se sont mis debout. Et par parenthèse, la prochaine fois qu'ils se lèveront, c'est quand je serai mort. C'est-à-dire qu'il y a deux circonstances dans lesquelles l'académie se lève. C'est lorsque vous entrez et lorsque c'est pour saluer votre disparition. Et puis là, le président de séance a dit « Monsieur, soyez le bienvenu et prenez part à nos travaux. » Et on m'a conduit à ma place. La semaine suivante, je suis revenu à cet endroit, 3 heures, pile. On bavarde un peu avant l'entrée. Vous savez, un peu comme dans un club anglais. Il n'y a pas de femme, puisque la seule femme que nous avons élue ne vient jamais. Et donc, voilà, il y a des messieurs charmants, éminents dans leur spécialité, des grands médecins, des grands juristes, un prêtre, un religieux, enfin, et puis des hommes politiques, des écrivains de tous bords, toute sensibilité de talent, et on bavarde. Et puis on règle les questions pendant 3 quarts d'heure à peu près. Le secrétaire perpétuel, M. de Ruon, fait part de toutes les communications qu'il a reçues et qu'il a à nous faire. Et puis les 3 autres quarts d'heure, on travaille au dictionnaire, c'est-à-dire que on révise ce qui a été préparé en commission. Alors, je fais partie aussi de la commission du dictionnaire qui siège généralement le matin et après la séance de l'après-midi. Et là, nous préparons la rédaction des articles, elle-même préparée par des spécialistes, des grammaires.
Vous faites partie de la commission, alors on peut se plaindre à vous de la lenteur de ce dictionnaire, finalement.
Écoutez, ça c'est une fable, parce que la dernière édition est de 1935.
Oui, justement.
Mais vous avez pu constater que nous avons publié cette année le deuxième fascicule, exactement à la date prévue, le premier fascicule de révision étant depuis la lettre A, apparu il y a juste un an. Et que si nous tenons les délais, il n'y a pas de raison que nous ne les tenions pas, en l'an 2000, nous aurons rebouclé la boucle, c'est-à-dire que nous serons arrivés à la lettre Z. Alors, on peut trouver que c'est long, que c'est lent, on ironise beaucoup là-dessus, on ironise plus gravement, plus sérieusement, sur le fait que ce dictionnaire ne serait pas d'une utilité évidente, puisqu'il n'est pas étymologique, il n'est pas encyclopédique, et que non, il n'apprend pas spécialement de choses pratiques, comme le Larousse ou d'autres, sur les mots dont nous parlons. Mais c'est que, là encore une fois, la tradition, ce qui nous est demandé, la mission de l'Académie, depuis le début, ça a été de faire un dictionnaire de l'usage. Et à une époque où il n'y avait pas d'autres dictionnaires. Il se trouve que le 19e siècle a été un siècle très encyclopédiste, presque plus que le 18e, et où les sciences se sont développées énormément, les techniques, l'industrie et le savoir s'est diversifié énormément, et qu'il y a eu une explosion de dictionnaires. Mais alors du coup, le dictionnaire académique a paru un peu abstrait et plus qu'académique, réduit simplement à des définitions élégantes des mots, mais qui n'apprennent rien, ces définitions, ni sur l'étymologie, ni sur l'origine, ni sur le contenu exact, scientifique et parfois historique des vocables que nous définissons. C'est que nous sommes là pour définir un certain usage, d'où notre travail assez particulier qui consiste à apprendre un mot d'usage courant et par des exemples montrer toutes les acceptions possibles du mot, mais nous ne sommes pas là pour en donner ni l'origine ni l'état scientifique des lieux. Il y a toujours eu un peu des tensions, mais des tensions amusées, ça n'a rien de conflictuel, mais des tensions entre ceux qui sont les scientifiques, par exemple, qui souhaiteraient voir entrer quantité de termes, ne serait-ce que pour empêcher les usagers de se tourner vers l'anglais. L'autre jour, on discutait d'isomère, isomérisation. On pouvait très bien dire que ce sont des mots barbares et ne pas les inscrire. Mais c'était une façon d'inciter les jeunes Français à employer isomering ou je ne sais pas quoi, et donc à recourir à d'autres langues, notamment l'anglais. Donc, il faut être assez ouvert, accueillant, hospitalier. Mais d'autre part, il y a des gens très puristes, très restrictifs, protectionnistes, qui disent non, pas de ces mots-là, et contentons-nous des grands mots de la grande tradition de la langue française. Donc il y a toujours un peu une petite bataille comme ça, mais très très amicale et souvent très drôle, entre, disons, les modernistes et puis les anciens, les modernes, ça a toujours existé.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, F, 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 S, P, A, O, R, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, S, A, R, A, U, R, D, A, UNESCO, U, R, S, S, G, B, O, N, U, C, O, N, B, A, B,
François Fossier.
L'Académie n'est pas aveugle et elle est encore une fois moderne à bien des égards, et c'est d'ailleurs encore une fois ce qui justifie sa pérennité et son utilité. Elle sait très bien comment on écrit à l'heure actuelle. Elle ne veut pas sanctionner ce qu'elle juge excessif. Néanmoins, elle est trop fine mouche, malgré son grand âge, pour aller à contre-courant. Elle sait d'ailleurs que ça lui a coûté assez cher, parce qu'elle était beaucoup plus intransigeante au XIXe siècle, et en refusant systématiquement dans ses rangs Flaubert, Balzac,
Baudelaire,
Zola. Enfin, le roman a été quand même tellement mis au banc de l'Académie pendant tout le XIXe siècle qu'elle ne peut pas maintenant ne pas s'en mordre les doigts et ne pas se rendre compte que c'était une erreur. De ce fait, elle se garde bien de condamner avec autant de raideur et d'excès les tendances de la littérature actuelle. Simplement, elle s'arrange pour en désamorcer l'intérêt, la replacer dans un courant plus relatif, de mode. Elle s'instaure comme juge suprême et juge au nom de l'éternité. Et là, on rejoint évidemment la base de l'édifice, si je puis dire, qui est cette espèce d'éternité et d'immortalité.
Mais ça fonctionne alors vraiment, cette idée?
Ah, je crois que ça fonctionne. Ça fonctionne d'une manière qui nous paraît peut-être un peu fantasmatique, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de réalité qu'on ne veut bien le dire dans l'esprit des académiciens. non seulement parce que leur position d'académicien et la mission donc qui leur est confiée est une mission d'éternité, ils doivent fixer la langue avec des réaménagements successifs, mais c'est toujours la même langue et on doit toujours partir des origines pour arriver à trouver une adaptation en quelque sorte du mot contemporain et sans se laisser influencer par le goût du moment, par la mode. Donc l'académie se met tout de suite sur une espèce de piédestal chronologique en quelque sorte. Elle regarde les choses de haut et sans s'embarrasser des clivages du temps. Enfin, elle est admirable d'ailleurs et c'est un feu d'artifice que d'entendre des académiciens comparer avec une extraordinaire maestria le style de Vaugelas et celui de Michel Butor. Enfin, je veux dire que tout est à plat devant eux, un peu à la manière d'une divinité qui, étant sur son piédestal, n'observe ses fidèles que de haut. Il n'y a pas tellement de têtes qui dépassent les unes des autres et elle n'envisage pas le critère chronologique, si vous voulez. L'idée, par exemple, qu'une littérature puisse être le fruit de son temps, répondre aux aspirations d'un moment, refléter les angoisses ou les goûts d'une société donnée dans une tranche chronologique donnée également, ce sont des idées qui lui sont étrangères et qu'elle ne veut pas prendre en ligne de compte. Ça lui donne un certain recul et les jugements qu'elle formule, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, sont loin d'être stupides. Il y a dans son palmarès un flair certain. C'est rare qu'elle se trompe. Ou du moins, on peut l'accuser de se tromper dans les cas où elle prise exagérément quelque chose de médiocre. Mais jamais de lamentable. Et inversement, il est bien rare qu'elle n'ait pas flairé un véritable talent. Et surtout, en dehors de toute considération commerciale, ce qui n'est pas le cas des autres prix littéraires. Il faut bien le reconnaître.
Tout à fait.
L'Académie n'est pas là pour faire la police.
Bertrand Porodelpèche.
Et pour essayer de faire un barrage aux vilains mots et empêcher qu'on salisse un objet, enfin le protéger de toutes les souillures. Les langues se sont toujours enrichies de leurs échanges, du métissage. S'il y a un lieu où le métissage est souhaitable, c'est bien dans la langue. Après tout, nous venons du latin et du grec.
Donc vous enregistrez ces mouvements de langue, enfin.
Il y en a qui passent et puis qui disparaissent. C'est pour ça que nous avons au début de chaque mot les notations de vieilli, très vieilli, et au contraire l'entrée de nouveaux mots. On redoute les progrès du franglais, enfin ou de l'anglais tout simplement. Ça n'est pas exact. Lorsque l'activité, par exemple, l'activité réelle ou bien l'activité de vocabulaire devient dominante pour les Français, eh bien le mot reprend de la force. Songez qu'il y a 50 ans, on ne parlait que du yachting et des yachtman. Eh bien, la plaisance et les plaisanciers ont complètement dominé, oui. Ou la voile, ou le bateau. Et dans le monde entier, les Américains parlent de bateau, de voile, de plaisance. Mm-hmm. Ils ne parlent plus de yachting.
La société Artus Bertrand a été fondée en 1804. Bijouterie, joaillerie, on y trouve aussi des décorations et des épées d'académicien. Claude Artus Bertrand nous explique comment on se procure cette fameuse épée.
Ça peut être ou l'intéressé lui-même qui peut s'enquérir de la manière dont il pourrait faire réaliser son épée. Ça peut être un ami qui a constitué officieusement un comité d'amis, d'admirateurs, de disciples. Ou ça peut être également un artiste, alors, qui a déjà été en contact avec le futur récipiendaire et qui a été chargé de réaliser l'épée et qui nous demande si nous pouvons collaborer avec lui pour la réalisation. Donc voilà, alors en fait, nous sommes un peu là, dans ce cas, condamnés à attendre une lettre, une visite ou un coup de téléphone.
Une fois que vous avez cette lettre, cette visite ou ce coup de téléphone.
Eh bien, à ce moment-là, il y a toujours un premier rendez-vous, qui est un rendez-vous généralement à trois. c'est-à-dire l'intéressé, le futur récipiendaire, l'artiste et nous. Et là se tient un rendez-vous qui est toujours assez curieux, puisque pratiquement l'intéressé est toujours un homme qui arrive un peu ignorant de ce qui va lui être demandé. Et nous, on va lui dire, nous allons réaliser un objet symbolique à partir d'une création d'un artiste qui est là. Et la question est de savoir quel symbole pourrait-on imaginer. Il faut donc que nous connaissions un peu votre œuvre et un peu ce que vous souhaitez voir reproduit. Qu'est-ce qui est important dans votre œuvre ? Et presque toujours, on a affaire à des gens qui sont finalement assez modestes et qui me disent « Oh non, ça, c'est pas tellement important. Non, c'est pas la peine d'en parler. » Donc, avec l'artiste, on a un jeu assez intéressant et amusant d'arriver à lui soutirer des renseignements pour savoir vraiment ce que nous pourrons éventuellement utiliser.
Alors, si je vous comprends bien, l'épée, c'est une espèce de portrait miniature.
Oui, d'une part, on évoque l'œuvre pour laquelle le monsieur a été élu, évidemment. Et puis toujours un côté un peu sentimental auquel il faut bien tenir compte, à savoir, on veut parler de la famille, on veut parler de l'université où on a professé, des maîtres qu'on a pu avoir, tout est possible. Par exemple, Jean-Paul Lang, je me souviens, a été professeur à Madagascar. Eh bien, il voulait absolument avoir un crocodile sur sa garde. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'il voulait une pierre dure et qu'il espérait qu'on trouverait une pierre dure avec une tache ayant la forme d'un crocodile sur la pierre, tout fait par la nature. Alors on lui a dit que ça pouvait être un peu long, alors qu'il vaudrait peut-être mieux graver le crocodile. Monsieur Becquerel, par exemple, était le quatrième membre de l'Institut de la famille Becquerel.
Oui, alors comment ça s'est
manifesté ? Ça s'est traduit par un faisceau, simplement de quatre éléments, mais ça suffisait pour qu'il l'ait dit. Mm-hmm. J'en ai vu d'autres qui voulaient évoquer leur épouse. Car les épouses jouent toujours un grand rôle chez les gens chercheurs, par exemple. Et les femmes, souvent, sont évoquées par la date du mariage, par l'église où on s'est marié. Oui, je vais vous montrer quelques documents que j'ai réunis.
Voilà.
Alors, par exemple, je peux vous montrer la photographie d'une épée qui a été faite pour Monsieur Rubinstein, le pianiste bien connu. Cette épée a été conçue et sculptée par M. Belmondo.
Je vois effectivement l'étoile de David qui est très, très importante dans la vie de M. Rubinstein.
Bon,
bien sûr,
et puis
il y a un
globe avec un petit brillant qui indique la place de la Pologne, pays d'origine de M. Rubinstein. Et puis il y a sur la coquille une tulipe, et la tulipe évoque la tulipe d'or qu'il avait gagnée dans un concours international en Hollande. Voilà, par exemple, typiquement des choses qui sont assez personnelles. Et puis, il y a deux cœurs, là. Bon, monsieur Rubinstein ne cachait pas qu'il était un homme sentimental. Et... voilà une autre épée, qui est l'épée, alors celle de monsieur Jean d'Ormesson. Alors, celle-là est assez amusante. Et là, une chouette. La chouette est toujours le symbole que nous connaissons, du savoir, de la sagesse.
Enfin, oui.
Sur la coquille, il y a une vue du château. Qu'est son château. Il y avait un petit signal lumineux qu'il pouvait faire allumer éventuellement s'il le souhaitait.
Ah bon ?
Oui.
Et ça servait à quoi ?
À rien, ça l'amusait.
Ah bon ?
Alors voilà maintenant une épée qui a été faite très récemment. C'est pour Monsieur Jacques Laurent qui vient d'entrer à l'Académie française.
Ah oui, elle est tout à fait spéciale. Vous pouvez nous la décrire vraiment en
oui,
détail ?
Oui, cette épée a été faite par Monsieur Vatchoff, qui est un artiste ami de Jacques Laurent, qui lui a demandé de bien vouloir exécuter cette épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute la coquille est composée de lettres telles qu'on les utilise qu'on utilisait plutôt autrefois dans les imprimeries. Au centre se trouve un chat, c'est le chat de Jacques Laurent, qu'il a tenu à associer à son honneur. Sur le pommeau, il y a une embeille empire, qui est ciselé, et sur la fusée, dans le bas, il y a une bague formée de fleurs de lys. Tout ça évoque les romans de Jacques Laurent, qui a écrit, vous savez, sous des noms les plus divers.
Mm-hmm.
Voilà.
Et c'est de l'ivoire, alors.
C'est
l'ivoire.
De l'ivoire.
Et quelle matière c'est...
Ivoire et métal doré. Alors, on peut utiliser, en fait, pratiquement tous les métaux. Il y a des métaux non précieux, l'acier, le cuivre, le bronze. Les métaux précieux, l'argent, l'or, le platine. Les fusées, c'est de la partie sur laquelle se porte la main, et réalisés souvent en ivoire, en pierre dure, agate, onyx, lapis. Ça pourrait être en cuir, ça a été en bois, enfin, tous les matériaux là sont concevables.
Alors, combien ça coûte d'avoir une épée d'académicien?
Question indiscrète. En fait, une épée peut coûter assez peu si elle est fort simple. Elle peut coûter quelques milliers de francs d'aujourd'hui.
Oui, allez-y, quelques milliers, ça veut dire entre...
Quelques milliers de francs, c'est-à-dire 4-5 000 francs.
4-5 000 francs, oui. Bon.
Mais ça, c'est une épée très simple qui rappelle un peu les épées, disons, que portaient autrefois les préfets ou des gens de ce genre. Mais une épée ayant vraiment une recherche artistique avec un artiste, il faut bien honorer naturellement, et plus la réalisation et le métal précieux, disons que le créneau se situe entre, disons, 50, 100, 150, 200 000 francs. Voilà. Et mieux si on veut, mais enfin, c'est un ordre de grandeur.
Nous retournons chez Bertrand Poirot Delpech.
Elle est belle, cette épée, hein? Elle est fine.
C'est un peu un bijou, mais c'est un truc ancien.
Oh, il est beau, cet habit, hein? C'est merveilleux. Ah,
dans quelle occasion est-ce qu'on le met? On le met pour être reçu, et puis pour recevoir les autres. Il y a une délégation, oui. On est toujours une quinzaine autour de celui qui est reçu. Moi, quand j'étais, il y en a une vingtaine qui est autour de moi, qui siège, vous savez, pendant la séance. Puis l'autre jour, il y avait le centenaire de Pasteur, alors on a tiré au sort, et moi, j'étais de ceux qui devaient y aller en costume, alors j'étais...
Vous étiez combien? 6, 7 hein?
Je sais pas, il y avait Claude Lévi-Strauss, Maurice Druon, je sais plus combien il était. La semaine prochaine, au début novembre, il va y avoir une messe pour la disparition du professeur Delay, qui est mort il y a quelques mois.
Oui.
Et bien là, je pense qu'on va nous demander d'y aller en costume pour, comment dire, pour l'honorer, quoi, par notre présence... plus nombreux possible en costume. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, et puis il y a aussi que ce qui arrive...
Et l'épée ne vous gêne pas quand vous portez l'habit?
Non.
Vous arrivez à vous asseoir?
C'est un ornement, c'est pas... vous savez, c'est très léger. Non, mais ça, la ceinture, c'est pas un vrai problème. Il y a de plus gros problèmes que ça. C'est une espèce de... comme ça, là aussi, une tradition, mais je trouve que ça a beaucoup d'élégance. Ça a un peu fait sourire mes enfants, et puis en même temps, ils trouvaient ça très, très impressionnant, enfin.
On trouve cet habit maussade à cause de sa couleur, ce vert particulier qu'on ne rencontre que qu'à Conti, ce vert choisi, prémédité, un vert souvent pédagogique, un vert de cabinet de travail et d'études d'avoués, acide et rigide, un vert de portefeuille et d'abat-jour, de drap de bureau et de reliure de dictionnaire. Henri Lavenant. C'est en l'an 8, sous Bonaparte, que le costume des académiciens fait son apparition. Il y a eu depuis quelques variantes. Victor Hugo, par exemple, qui avait les genoux cagneux, abandonna le pantalon moulant pour adopter, le premier, le pantalon à broderie que nous connaissons aujourd'hui. Alexandre Poniatowski est directeur général de l'Envin Homme, une des grandes maisons qui habille nos académiciens.
C'est une vieille tradition chez l'Envin. D'abord, l'homme, l'Envin a 60 ans, donc nous avons commencé en 1927. Donc nous sommes habitués à habiller les académiciens depuis le temps, car nous avions démarré avec le sur-mesure. Un habit d'académicien se fait sur-mesure. Ça, c'est un travail gigantesque. Imaginez-vous que pour faire un habit d'académicien, ça prend 6 mois. Pendant les 6 mois, l'académicien va venir faire différents essayages pour son habit propre, je dirais le côté drap.
Oui.
Mais ce qui prend le plus de temps, ce sont les broderies. Il y a encore 3 brodeuses à Paris qui sont capables de broder, de faire ces fameuses broderies, ces petits galons qu'on voit verts. Alors imaginez-vous que rien que pour dessiner les broderies sur le tissu, il faut 60 heures. Et pour les réaliser, il faut 450 heures. Bon, c'est un travail fabuleux.
C'est énorme, oui.
C'est énorme. D'où souvent l'explication du prix d'un habit d'académicien.
Qui s'élève à
120 000 francs.
120 000 francs.
Voilà. Alors vous rajoutez le chapeau qui lui aussi est un petit peu spécial parce qu'il doit pouvoir être pliable. vu qu'on le presse, il le presse entre le bras et les côtes.
Je croyais qu'il était en bois.
Non, il est pliable, pas du tout. Il est en peluche de soie noire. Il y a des plumes d'autruche. Il y a un galon qui rappelle l'habit. Et il y a une cocarde tricolore. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'habit d'académicien est à l'origine un habit militaire. Bon. Il est fait en drap bleu nuit.
Ah oui, il est bleu nuit.
Il est bleu
il
nuit.
Il n'est pas noir.
Il est bleu nuit. Les broderies, bon, c'est des broderies de rameaux d'olivier qui sont vert et or. Bon, et comme accessoire, vous avez la cape, le bicorne, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Je suppose que quand on essaye l'habit, il n'y a pas donc encore les broderies dessus.
Non, les broderies se font au dernier moment.
Voilà. Alors, est-ce que ça remet pas tout en cause, enfin?
Non, pas du tout. L'essayage se passe comme un costume sur mesure. C'est-à-dire que vous venez, on vous prend vos mesures, on vous fait une première toile que vous essayez. Bon, après, on vous fait un premier prototype, vous l'essayez, vous revenez, on le remodifie. Etc. Bon, ça se passe comme un costume sur mesure, ça se fait dans la manière et dans l'art dont ça doit être fait. Et après, une fois qu'il s'est terminé, on sait qu'on doit lâcher un petit peu, de quelques centimètres sur le côté, à l'endroit où on va faire les broderies, parce que les broderies vont tirer un petit peu le tissu. Donc ça, les coupeurs le savent. Après, au dernier moment, on fait les broderies et votre habit est prêt.
Alors, Lanvin a habillé quels académiciens?
D'abord, il y a plusieurs académies. Donc on a aussi bien habillé des académiciens de l'Académie française, des sciences, des arts... etc.
Ah, ils ont tous le même costume ?
Non, il y a des détails un petit peu différents. Bon, en Académie française, on a eu la visite de Paul Valéry, d'André Mauroy. Paul Valéry était André Mauroy en 1939, Cocteau en 55, Maurice Druon en 67, Jean Dutour, Alain Decaux, Jean d'Ormesson et bien d'autres.
Angleterre, par exemple, il y a toute une étiquette, tout un protocole qui se maintient autour de la cour ou autour des institutions. Mm-hmm. Et puis, en France, à force de dire, oh, à quoi bon, etc. Bon, les profs ne s'habillent plus, bientôt les magistrats non plus. Et on ne sait pas ce qui restera de ce protocole. Alors, moi, je ne suis pas fou des cérémonies et des uniformes, mais le fait que ça demeure et autour des activités de l'esprit me plaît assez. Ça me plaît assez que ce soit autour de la... Plus, autant les uniformes militaires, ça m'ennuie un peu parce que je respecte le courage, mais que profondément la violence me heurte. Alors que là, de voir un certain apparat autour des choses de l'esprit, ça me plaît tout à fait. Après tout, la langue est une sorte d'apparat. Enfin, si on la pratique dans sa meilleure forme, je pense que ça... Donc ça ne me choque pas du tout. Il y a des gens qui disent pourquoi des épées liées à... l'activité pacifique que sont l'écriture ou les sciences ou les lettres, et je dis pourquoi pas. Moi, je pense au contraire que tout ce décorum, toute cette espèce de fête des yeux et de cette élégance autour des activités de l'intelligence et du goût, enfin de la création et de l'expression et du savoir, ça me satisfait tout à fait. Et pourtant, alors on m'avait dit qu'on trouvait que j'étais pas très traditionnaliste, et ce qu'il faut savoir, enfin ce qui me semble, c'est que la pratique de la langue est par définition, elle est à la fois révolutionnaire et traditionnaliste, parce que la langue peut tout dire, elle peut tout subvertir, c'est la subversion et c'est la tradition à la fois. Et c'est parce qu'elle est tout à la fois qu'on a vu sous la coupole des gens de tous les bords et de toutes les familles, et qui s'entendent parfaitement parce que... nos activités nous font nous porter à la pointe de l'esprit où tout le monde peut arriver à s'entendre. C'est donc un lieu de paix, en même temps de paix des esprits. Vous avez des gens comme ça très opposés et de toutes les disciplines qui dialoguent. On pourrait imaginer d'ailleurs des thèmes plus approfondis, mais les mots, l'étude des mots permet de traverser absolument toutes les notions et tous les débats possibles. Pour tout vous dire, pour résumer, je suis ravi d'être dans cet endroit.
Est-ce que vous pensez que le lien social s'est transformé autour de vous depuis que vous avez été reçu à l'Académie ?
Pensez-vous, mais non. Non, je n'ai rien senti de semblable. Ce qui est vrai, c'est que quand on est candidat, parce qu'on ironise un peu sur les gens qui ont envie d'y aller, ça se sait, ça se devine, ça se dit, et puis arrive un jour, on est candidat. Et que le fait d'être candidat, ce n'est pas confortable parce que les gens se moquent un peu. Ça n'est pas confortable d'être dans la position de souhaiter le vote de quelqu'un. Et donc le premier plaisir quand on est élu, c'est qu'on n'est plus candidat. Et c'est peut-être ce qui m'a changé la vie, c'est de savoir que c'était fait, que c'était n'était plus à faire. En plus, les hommes politiques que je rencontre là-bas disent assez drôlement, et puis vous verrez, ce qui est agréable, c'est qu'on n'est pas soumis à réélection. Vous savez que c'est la hantise des hommes politiques, c'est d'avoir à se représenter. Et là, nous sommes, c'est une bosse qui nous est épargnée.
C'était Portrait de l'Académie française, une émission de Christine Goémé. Groupe de réalisation, Jean-Louis Boissonnade, Daniel Fontanarosa, Gilles Pezra. Avec la participation de Bertrand Poirot-Delpech, membre de l'Académie française, François Fossier, auteur du livre « Au pays des immortels » paru aux éditions Mazarine, Claude Arthus-Bertrand, directeur général de la société Arthus-Bertrand, Alexandre Poniatowski, directeur général de la société Lanvin Homme. Et les voix des académiciens, Marcel Achard, Maurice Genevoix, André-François Poncet. Bibliographie, La vieille dame du Quai Conti, par le duc de Castres, aux éditions académiques Perrin. Et Au pays des immortels, par François Fossier, aux éditions Mazarine.
Cette émission a été diffusée le 31 octobre 1987 sur France Culture.